Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 14 février 90.
Il y a une question posée. Vous avez dit la dernière fois, saint Thomas donne une vision personnelle de l'homme comme image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Vision personnaliste. C'est toute la question de la personne. Voyez, la vision de l'image de Dieu, c'est la vision du théologien qui voit l'homme relativement à Dieu. Des pères de l'Église, avec le danger qu'il y ait comme philosophie qui sous-tend cette vision un certain ontologisme. L'homme se définit par Dieu. La vision de saint Thomas, grâce à Aristote, essaie de comprendre que l'homme possède en lui-même une certaine autonomie, une certaine intelligibilité propre. C'est ça la personne. Substance individuelle de nature raisonnable. Tout l'effort de Boèce, c'est d'essayer de découvrir comment l'homme possède en lui-même une certaine autonomie, substance individuelle, de nature rationnelle. Saint Thomas, à partir de là, nous l'avons vu, essaie progressivement de dépasser ce point de vue un peu logique de Boèce. Boèce a surtout pris d'Aristote l'aspect logique. Il a traduit les catégories d'Aristote. Il a traduit la logique d'Aristote, pas du tout la métaphysique. Saint Thomas réintroduit la métaphysique d'Aristote. Et donc donne un sens beaucoup plus profond à l'aspect substance. Et essaie de mieux saisir ce que représente l'autonomie propre de la personne. Domina sui. La personne est responsable de ses actes. C'est ça l'autonomie. Domina sui. Et c'est ce que j'avais essayé de vous montrer en montrant comment la personne implique d'avoir une finalité propre, une béatitude. Voyez, donc la vision de l'homme n'est plus uniquement relative à Dieu. Mais la vision personnaliste, c'est l'homme maître de ses actes, maître de l'orientation de sa vie. J'espère que vous voyez. C'est ça le propre de saint Thomas, comparativement à tout ce qui était précédent, tout ce qui était donné précédemment dans la vision des pères de l'Église, avec un aspect, une philosophie qui était beaucoup plus néoplatonicienne ou stoïcienne. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre petit à petit, avec le danger, c'est ce que nous allons voir, progressivement, la sécularisation de l'homme, la sécularisation de la personne humaine, vous voyez? Historiquement, je crois qu'il faut essayer de comprendre ça. Il y a comme une espèce de grande montée. Je crois que saint Thomas est un sommet. Au niveau de la personne. Avant, image de Dieu. Qui dit image, dit référence au modèle. L'image fait appel au modèle. Une image, ça ne se comprend pas. soutenue par une certaine philosophie, ça risque de faire que, progressivement, on ne voit l'homme qu'en référence à Dieu. Le fini se comprend par l'infini. Voilà le grand slogan de l'ontologisme. Le fini se comprend par l'infini. Donc, une certaine, faut être prudent, un certain ontologisme qui provient des néoplatoniciens et des stoïciens. Saint Thomas, par la grande vision, il garde ça. L'imago Dei est présent dans toute la vision moraliste de Saint Thomas, mais s'introduit ce point de vue de la personne d'une façon très très nette. Et si la personne, le point de vue de la béatitude, le point de vue de la finalité, et le point de vue de l'autonomie substantielle, l'âme qui subsiste par elle-même. Donc, toujours ces deux pôles que je vous avais montrés la dernière fois. La personne implique ces deux aspects. Donc, il y a dans Saint Thomas assume une certaine vision de l'homme qui possède sa propre autonomie, c'est-à-dire sa capacité de s'orienter et d'être responsable de ses actes. Mais, en même temps, sa béatitude ne peut être qu'en Dieu. Ces deux pôles, finalité et substance. Toute la métaphysique. Alors, à partir de là, c'est ce que nous allons maintenant voir, la dégradation. En dessous du niveau de la mer, hein, vous allez voir, progressivement. C'est ça qui est curieux et qui est intéressant, du reste, à saisir. On va voir comment, après Saint Thomas, la causalité finale va commencer à disparaître. Avec Don Scott et Occam, je ne vais pas voir tout, hein. Je vois Don Scott, Occam, Suarez, Descartes. Historiquement, il faut essayer de comprendre le sens de ces théologiens. Donc, vous avez Don Scott, qui est un franciscain. Mais les religieux commencent à pénétrer dans la théologie. Il y avait avant Saint Anselme, bénédictin. Anselme, Thomas d'Aquin, dominicain. Avant, entre deux, évidemment, Saint Bonaventure. Si on avait le temps, on verrait Bonaventure. Puis Don Scott, qui n'a rien de son père Saint Bonaventure, qui n'a pas grand-chose de son père Saint François. C'est curieux. Puis alors, vous avez ensuite Occam, parce que ça se tient, c'est... Mais c'est une chute de plus en plus grande. Suarez, il essaie de remonter. De Saint Thomas. Et puis Descartes. Alors là, on entre dans toute la philosophie nouvelle, vision philosophique. Tandis qu'ici, c'est les théologiens. Saint Anselme n'a pas beaucoup regardé le problème de la personne. Mais c'est quand même un théologien qui a marqué énormément, surtout par rapport aux voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Il faut comprendre un peu ce que c'est que Saint Anselme. Alors, Don Scott, menée par la Sorbonne. La Sorbonne qui est peut-être plus catholique que Saint Thomas. Ça lui arrive. Elle est condamnée par Saint Thomas, qui fait que ça jouait énormément pour les disciples de Saint Thomas. Retour à Avicenne, alors qu'il y avait le dépassement d'Avicenne par le point de vue du retour à Aristote. Et c'est ce qui explique la position de Henri de Gand. personnalité crée. Il fait ça à propos du traité du Christ. Autrement dit, il s'agit de discerner quel rapport il y a entre ce par quoi la nature intellectuelle est dite personne et ce par quoi une telle nature est singulière et individuelle. Oui, ça, c'est un problème très intéressant qui est au cœur de toute la philosophie, de toute la théologie de saint Thomas. La nature humaine, dans le Christ, est parfaitement individualisée, concrète. Et la personne, c'est le Verbe. Donc, il y a une individualité sans personnalité. Distinction formelle de ton Scott, c'est ça qui caractérise ton Scott. deux individus comme vous. Je comprends. Heureusement, du reste. Il y a quand vous regardez dans la glace que vous voyez un autre individu exactement comme vous. Il est inversé. Quand vous levez la main droite, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. C'est très curieux, ça. Mais c'est intentionnel, la glace. C'est pas réel. Oui. L'ontologisme commence là. Pas la différence entre votre visage intentionnel et votre visage réel. L'incommunicabilité haute quad, c'est très curieux, mais c'est ça qu'il faut saisir pour saisir ce que c'est que la personne chez Don Scott. L'incommunicabilité haute quad consiste dans l'impossibilité pour une réalité d'être réalisée identiquement la même plusieurs fois. Cette incommunicabilité est le propre de toute nature créée. La nature créée est incommunicable de la première manière parce qu'elle est un singulier, un quad, un concret. Mais une nature singulière, incommunicable ou de quad, peut être communicable ou de co. Que doit donc ajouter à ou de quad cette ou de co? C'est la fameuse distinction de Boès qu'on a déjà vue plusieurs fois. Le quad et le co. Vous retrouvez ça dans Saint Thomas. Mais la différence ici, c'est que vous voulez formaliser le quad et vous voulez formaliser le co. Or, le co, par lui-même, c'est la formalisation. Ce par quoi? Essayez de formaliser ce par quoi. Ce par quoi, quad et quad. La blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. C'est bien ça la blancheur. Formaliser la blancheur. Hein, casse-tête ça. Le blanc. Je peux le formaliser par la blancheur. Oui, l'abstrait et le concret, quoi. Le langage demande bien ça. Pourquoi l'intelligence a-t-elle cette maladie de toujours formaliser? Oui, c'est ça qu'on appelle la maladie des intellectuels. Ils perdent la tête avec ça. Parce que vous ne pouvez plus formaliser le coup. Psychologiquement, ça a un nom, vous savez bien. Don Scott propose deux solutions qu'il juge également insatisfaisantes, selon lesquelles la personne serait personne par quelque chose de positif dans la nature, au-delà de ce par quoi la nature est individuée. Donc il y a le ce par quoi la nature est personnelle et ce par quoi la nature est individualisée. De quoi? Ou au contraire, seulement par une négation ajoutée à la nature. Entre ces deux solutions qu'il réfute, Don Scott propose une via media. C'est la voie moyenne. Ça jouera un rôle très très grand chez Suarez, la voie moyenne. Mais on va transposer dans le point de vue spéculatif ce qu'on met constamment dans le point de vue pratique. Dans le point de vue pratique, la voie moyenne, c'est quoi? Oui, la voie moyenne, dans la politique, il y a toujours une voie moyenne. Il y a les extrêmes et puis la voie moyenne. Il y a le centre politique, les deux extrêmes. Il y a le centre au niveau moral, il y a les deux extrêmes passionnels. Et puis, in medio status virtus. Au milieu, la vertu se tient. À droite, à gauche. Les deux extrêmes. C'est... Point de vue pratique, c'est tout le temps comme ça. Alors on va projeter. Oui, c'est le psychologisme qui commence. On va projeter ces distinctions pratiques dans l'ordre spéculatif. Et alors on aura la voie moyenne. C'est très très curieux. Et ça c'est très très important parce que ça va jouer un rôle extrêmement important en morale et en politique. Donc entre ces deux solutions qu'il réfutons ce qu'a de proposer une vie immédiate. Aucune entité créée ne s'ajoute à la nature singulière pour la personnaliser. Mais d'autre part, la seule négation de dépendance actuelle ne suffit pas pour qu'il y ait incommunicabilité ou de quoi. Il faut, affirme-t-on Scott, une triple négation de dépendance. Autrement dit, une triple indépendance. Actuelle, aptitudinelle et potentielle. Il y a une triple indépendance, une triple autonomie, si vous voulez. Actuelle, selon l'aptitude, donc aptitudinelle. Et potentiel. Toutefois, la réalisation de ces trois indépendances assure une incommunicabilité parfaite qui ne convient qu'aux personnes divines. La négation de dépendance potentielle n'entre pas dans le constitutif formel de la personnalité créée. Donc, vous voyez, le point le plus important c'est la personne, c'est l'incommunicabilité, c'est l'autonomie, la négation de toute dépendance. Il formalise substance individuelle. Ce n'est plus la finalité qui va intéresser Don Scott. Pourquoi ? Parce que le problème de la finalité pour Don Scott, c'est métaphorique. Alors c'est la première fois où on voit intervenir en théologie la causalité finale, elle est métaphorique. Et c'est très simple à comprendre. C'est que la seule chose que je constate, c'est la causalité efficiente. La causalité efficiente s'exerce grâce à la finalité. Mais la finalité n'est efficace que grâce à la causalité efficiente. Donc, en elle-même, la causalité finale est métaphorique. Alors, vous voyez, c'est très très grave ça. C'est considérer que la seule causalité qui compte, c'est la causalité efficiente. À partir de Don Scott, c'est l'efficacité. Très très important de voir ça, ça joue un rôle extrêmement grand. Alors on le voit à propos de la personne, c'est que la personne ne se définit plus comme le point de vue de ses activités et le point de vue de la finalité, mais uniquement de l'indépendance. Tout, on recherche à préciser cette triple indépendance actuelle, aptitudinelle et potentielle. Il est donc clair que Don Scott ne peut pas admettre sans restriction la définition de Boès, car, dit-il, elle peut convenir à l'âme humaine séparée. En effet, l'âme séparée, tout en étant indépendante actuellement, demeure dépendante aptitudinale, donc d'une façon aptitude. Avec, elle a une aptitude à demeurer dans le corps. Elle est relative au corps. Et se trouve ainsi communicable ou quo, in ratione formae. Et le terme individua, qui figure dans la définition de Boès, substance individuelle, n'est pas pour Don Scott synonyme d'incommunicable ou de quo. C'est pourquoi Don Scott préfère la définition de Richard de Saint-Victor à celle de Boès. Mais l'indépendance, selon l'aptitude, ne suffit pas à elle seule à rendre raison de la personnalité créée pour qu'une nature intellectuelle singulière soit une personne humaine. Il faut à la fois l'indépendance selon l'aptitude et l'indépendance actuelle. Alors je cite, la personnalité requiert une ultime sagesse. distinction y a-t-il entre une nature singulière et la même nature personnalisée? Donc il revient sur essayer de préciser. Si l'on considère ce qu'il y a de positif dans la personne, il faut dire que la personne créée et la nature singulière sont identiques, puisque la personnalité n'ajoute à cette nature aucune entité positive. Mais si l'on considère la personnalité d'une manière complète, en tant qu'elle implique l'incommunicabilité, alors il faut reconnaître que la personne et la nature singulière ne sont pas absolument identiques. Donc il y a quelque chose de plus dans la personne, c'est l'incommunicabilité absolue. L'incommunicabilité du gros. Voilà. Essayez de comprendre. Moi, je ne comprends pas, vous savez rien. Je ne suis pas dans ce cas. c'est son indépendance. Ailleurs, il la définit comme un suppôt intellectuel ou une nature intellectuelle complète qui n'a pas pour support un autre ni n'est destinée à réaliser avec un autre à titre de partie une unité essentielle. Donc c'est toujours cette individualité, cette incommunicabilité, cette négation de dépendance qui définit la personne. Alors, la différence avec Don Scott, c'est que c'est le point de vue du suppôt. Or, le suppôt, c'est un terme logique. Chez Don Scott, chez Occam. C'est la logique qui va prendre toute la place par rapport à la métaphysique. Et le grand problème de la logique d'Occam, c'est la supposition. Personne, c'est un suppôt très particulier, très spécial, subponite. suppôt étant un genre dont la personne est une espèce. Je crois que si on réfléchit là-dessus, on comprend exactement ce qu'est la personne pour Occam. Occam distingue deux exceptions du terme suppôt. Voilà. On va préciser, hein, puisque c'est le genre, il faut essayer de comprendre. Pour les logiciens, il est synonyme d'individu et de singulier, et désigne soit ce qui est numériquement une réalité, et non plusieurs. En ce sens, n'importe quel universel peut être dit individu. Soit la réalité existant hors de l'âme, qui est une et non plusieurs, et n'est pas le signe de quelque chose. En ce sens, toute substance est un individu. Soit un signe propre à une chose, ou un terme discret. Autrement dit, un nom propre. Vous distinguez, oui, procédez du possible. Tout ce qui est suppôt. C'est extraordinaire. Occam, il faut avoir lié un tout petit peu d'Occam dans sa vie pour voir combien c'est difficile. Parce que vous êtes dans le possible, tout le temps dans le possible. Vous êtes en logique. Donc vous n'avez plus la référence à l'être existant. Et à l'être pensé, c'est-à-dire le possible. Pour les théologiens, suppôt et individu ne sont pas convertibles, car pour eux, le suppôt n'est que substance, alors que l'accident est individu. En ce sens, le suppôt est un être complet, incommunicable par identité, qui n'est à inhérer à rien et n'est soutenu par aucun sujet. Donc, c'est l'autonomie la plus parfaite, le suppôt. Notons enfin que pour Occam, dans les créatures, la nature créée et le suppôt ne font qu'un. Bien que la nature créée ne soit suppôt que de façon contingente. C'est pourquoi, bien que le terme suppôt connote quelque chose qui n'est pas identique à la nature créée. Néanmoins, la nature elle-même, tant qu'elle est suppôt et n'est pas assumée par un autre suppôt réellement distinct, ne diffère pas plus du suppôt que d'elle-même. Essayez de comprendre. Vous pouvez comprendre, c'est intelligible.